écoutez, hein, approchez-vous un peu, s'il vous plaît. Hein. Venez, 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 venez. C'est le même prix de vin. Même, je dirais, c'est moins cher. Donc, venez, venez. Je vous promets, je ne vais pas marcher sur vos pieds. Hein. Je ne vous vise pas, sauf si vous restez au fond, Larissa. Donc, venez, venez. Ouais, ouais. Venez, venez. Voilà, voilà. Vous savez, notre monde est rempli de mauvaises nouvelles. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Eh bien, hier soir, bon, ça n'a rien à voir avec la prédication, excusez-moi. Hier soir, en regardant les infos et en étant, bien sûr, attristé par tout ce qui se passe dans le monde, sur l'antenne 2, vers 8h30, il y avait une petite émission qui s'intitule, si je ne me trompe pas, Les rencontres des papotins. Est-ce que quelques personnes l'ont regardé, l'ont vu? Levez le doigt. Oui, oui, Cathy l'a vu. C'est tout. Nous ne sommes les seuls qui regardent la télé. Bon, bah, tant pis. Eh bien, ce qui nous a épatés, Cathy et moi, c'était deux choses. Cette émission concerne des enfants et des jeunes autistes. Et tout au début de cette émission, ils ont braqué la caméra sur un homme qui s'appelle Driss El Kezeri. Bon, ce nom ne vous dit rien peut-être, mais c'est un monsieur qui a reçu la Légion d'honneur du président Chirac dans le temps pour son travail auprès des enfants autistes. Il a créé une association, il passe souvent à la télé, à la radio. C'est un homme très dévoué pour ce travail parmi les gens qui souffrent avec cette maladie. Et ce qui nous a particulièrement épatés, c'est que ce monsieur, il est le papa de notre genre, Adam. Et donc, c'est un monsieur que Cathy et moi, on a la joie de connaître personnellement. Et dans cette émission, il y a une vedette, quelqu'un qui vient du cinéma ou un chanteur qui vient et ces jeunes lui posent des questions à leur façon. Et c'est vraiment quelque chose de fantastique. Ça passe de temps en temps à la télé. Donc, si vous ne voyez jamais une annonce que ça va venir dans la semaine, essayez de regarder. Vous allez être encouragés. Et Cathy, on est fiers que c'est quelqu'un qui maintenant fait partie de notre famille. Prions avant de commencer. Seigneur, en effet, il fait bon d'être dans ta maison pour te louer et pour t'adorer. Et merci pour ta lumière, Seigneur, qui nous réchauffe le corps, mais aussi le cœur. Et donc maintenant, Seigneur, que ta lumière puisse briller sur nous, en ouvrant ta parole et en t'écoutant. Seigneur, viens nous parler parce que nous en avons besoin. Nous te demandons humblement au nom de Jésus. Amen. Savez-vous qu'il existe des gens qui sont à la recherche de l'Église idéale? Ah ben oui. Et donc, si vous avez l'image, j'aimerais bien que vous la mettiez sur l'écran. Des gens qui sont à la recherche d'une église parfaite, une église sans problème. Et donc, ces personnes, ils se déplacent d'église en église en cherchant l'église idéale. J'avais un ami baptiste, pasteur en France dans le temps. Il est avec le Seigneur maintenant. Il s'appelait Raymond Collet. Et lui, il parlait de ces gens qui allaient d'église en église en cherchant l'église parfaite. Et Pasteur Collet les appelait les partoutistes. Les partoutistes, parce qu'ils vont partout en cherchant l'église idéale. Bon, ça m'a plu comme phrase. Hein? Et la question qui revient à vous et moi, j'espère que ceux qui ne sont pas là ce matin ne sont pas en train de chercher ailleurs. J'espère que c'est juste le foie. Mais la question qui me concerne et que le Seigneur m'a amené à partager avec vous, c'est la suivante. Qu'est-ce que c'est finalement une église idéale? Qu'est-ce que c'est une église idéale? Est-ce que c'est une église qui a un lieu de culte spacieux, comme nous avons dit ici? Est-ce que c'est une église moderne, avec tout ce qu'il faut comme audiovisuel? Pourquoi pas, Mathieu? Hein? Est-ce que c'est une église bien chauffée? Ce matin, je dirais oui, hein? On a besoin. Est-ce que c'est une église avec un prédicateur de tonnerre, jeune et dynamique? Ou peut-être une église qui est remplie des membres accueillantes, souriantes, aimantes? Ou est-ce que c'est tout simplement l'église idéale, une église qui fait du bon café et qui a des croissants avant le culte? Moi, j'aimerais bien. Donc, amenez les croissants dimanche prochain, merci. Oui, il y a des gens qui sont à la recherche de l'église parfaite. Mais savez-vous que Dieu, il cherche une église parfaite aussi? Ah! Dieu, il cherche une église de qualité. Mais pour Dieu, les critères sont bien différents. Ce n'est ni la beauté de la musique, ni la qualité des prédicateurs. Mais si, qui intéresse le Seigneur? Non, 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 non. Ce dont Dieu cherche dans une église est une communauté humble qui dépend totalement de lui. L'église idéale, aux yeux de Dieu, est autre chose que le bâtiment et les activités là-dedans. Et vers la fin du chapitre 4, si vous avez votre Bible ou votre téléphone, regardez dans le livre des Actes, chapitre 4, gardez vos Bibles, et oui, vos téléphones aussi, ouvertes, mais sur ce passage, hein, pas sur les infos. Parce que dans ce chapitre du livre des Actes, nous voyons, je crois, clairement ce que Dieu cherche qu'une église soit, ce que Dieu cherche comme une église idéale. Et je suis persuadé que ce qu'il est dit dans ce chapitre 4 que nous allons regarder est aussi ce que Dieu attend de nous ici dans notre église. Et donc, c'est écrit un peu petit, mais j'ai demandé à une sœur de se lever et de le lire pour nous, ce chapitre 4, versets 23 à 31. Écoutons attentivement.
Les apôtres.
Amen, amen. Merci. Je sais que c'est un peu long, mais c'est très important ce passage. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, Pierre et Jean étaient dans le temple. Ils ont parlé de Jésus, ils ont prêché la bonne nouvelle et les Juifs n'étaient pas contents. Donc, ils les ont fait arrêter, ils les ont menacés de les battre, même de les mettre en prison ou pire encore. Et après, nous lisons dans ce verset 31 que quand ils ont été relâchés, Pierre et Jean ont retrouvé l'église qui était à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié. L'église a prié. Il est évident pour moi que la première église, vous m'avez entendu dire déjà que cette première église à Jérusalem était bien sûr une église baptiste, mais on ne le dit pas, on ne veut pas vexer nos autres frères et sœurs dans d'autres communautés. Mais cette première église des croyants était avant tout une église qui priait. Je suis très content qu'en arrivant ici, je me suis rendu compte que nous commençons le matin, le dimanche matin dans cette église, avec quoi? Avec une réunion de prière. Parce qu'une église qui ne prie pas est une église affaiblie. La première église des croyants à Jérusalem était une église qui priait et qui priait sans cesse. Les apôtres qui ont été arrêtés, menacés de mort, mis en prison et ensuite relâchés, ils sont allés tout de suite retrouver leurs frères et sœurs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils risquaient eux aussi d'être crucifiés comme Jésus. Il y avait crise, il y avait problème, il y avait menace sur toute la communauté chrétienne. Aujourd'hui, si notre Église était menacée, sans doute Nicolas fera appel aux anciens pour faire une réunion de crise, de conseil, pour discuter qu'est-ce qu'on va faire. Bon, ça c'est notre réflexe d'être humain. Mais cette première Église à Jérusalem, quel était leur premier réflexe? C'était de prier. Pas de faire des réunions, pas de mijoter des plans de comment protéger chaque membre, chaque croyant. Non, non, non. Ils ont eu l'idée tout simplement d'aller prier, de demander la direction de Dieu et pas de bricoler des plans de sauvetage de leur communauté. Verset 24 dit, ils élèvèrent leur voix à Dieu. Ils étaient tous ensemble dans la prière. Cette première église a compris que pour résister aux menaces et aux attaques, cela demande de la prière avant tout. La première église chrétienne était une grande église. Peut-être pas en nombre, mais elle était grande parce qu'elle était d'abord et avant tout une église qui prie. Une église qui priait ensemble et une église dont les membres priaient chez eux aussi, individuellement, nuit et jour. Car la prière, c'est ce que nous aide à rester dans la présence de Dieu. Pendant les premières années de l'œuvre missionnaire en Afrique noire, on m'a raconté que les nouveaux chrétiens, les premiers chrétiens, étaient très fidèles dans leur vie de prière. Et si il vous est arrivé de visiter l'Afrique, d'aller peut-être en brousse, de voir les villages. Vous savez que les gens, ils vivent vraiment ensemble. Les maisons, les cases presque collées les unes contre les autres. Et donc, quand les chrétiens voulaient prier dans ces villages, ils quittaient leur village, ils allaient un peu en brousse pour trouver un endroit tranquille pour prier. Et les premiers chrétiens, au début de l'évangélisation en Afrique, étaient très fidèles dans cette vie de prière. Ils allaient le matin et le soir pour prier, et chaque chrétien trouvait le petit coin tranquille pour prier, et ils marchaient jusque-là, et ils se mettaient à genoux pour prier, et fidèlement. Et puisqu'ils étaient fidèles dans leur prière, après un certain temps, on voyait les chemins qui partaient des villages, qui allaient un peu dans tous les sens et qui menaient à ces lieux de prière de chaque chrétien. Mais si un frère ou une sœur était un peu affaibli, refroidi dans leur foi, eh bien, le sentier qui était au début bien battu commençait à être recouvert de nouveau par le gazon. Les autres chrétiens leur disaient, « Eh bien, frère, eh bien, sœur, le gazon commence à recouvrir votre chemin. » C'était une façon de dire, « Vous commencez à négliger cet aspect si important de la vie chrétienne qui est la prière sans cesse de reconnaissance, de remerciement, de louange, de confession de péché. » Et vous, pensez au moment quand vous êtes devenu au Seigneur au début. Vous avez prié beaucoup à ce moment-là, n'est-ce pas? Beaucoup, beaucoup. Et maintenant, comment est votre chemin de prière? Est-ce que c'est bien battu, bien visible? Où est-ce que ça commence à être recouvert aussi avec un peu trop de gazon et peut-être même de mauvaises herbes? Si nous voulons être ici une grande église aux yeux du Seigneur, nous devons continuer à être des frères et sœurs qui prient quotidiennement et avec empressement, et aussi une communauté qui prie ensemble. Car Jésus-Christ, il bat son Église là où les chrétiens prient et demandent son aide sans cesse. Et donc, le Seigneur m'a dit cette semaine, et il m'a demandé de vous dire, priez. 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 Dieu cherche une église parfaite en nous. La deuxième chose que j'ai remarquée dans ce passage, c'est toujours dans le verset 31, un peu notre verset clé de ce matin. Il est dit ceci, « Le lieu où ils étaient assemblés trembla. » Et tous les chrétiens furent tous remplis du Saint-Esprit. Il est évident qu'une église et que ses membres sont touchés par le Saint-Esprit. C'est ainsi que nous deviendrons chrétiens, n'est-ce pas? Parce qu'un jour, on vous a raconté l'histoire de Jésus-Christ. Un jour, on vous a annoncé la bonne nouvelle. Ça s'est rentré dans vos oreilles. Mais le Saint-Esprit, à ce moment-là, a commencé à travailler dans votre cœur, n'est-ce pas, pour vous dire, c'est vrai, c'est la vérité. Jésus, il est réellement le Fils de Dieu. Il peut vous pardonner de vos péchés. Il peut changer votre vie. Ouvrez votre cœur à lui. Il est vrai que nous avons déjà eu à voir avec le Saint-Esprit au moment de notre conversion. Mais chaque Église a besoin d'être continuellement remplie du Saint-Esprit. Cathy et moi, quand nous sommes en vacances, nous aimons bien visiter les monuments et tout ça, et aussi des églises. Et même jusqu'au point où nos cinq filles ont commencé à nous dire, « Mais papa, quand on va en vacances, est-ce que cette fois-ci, on peut ne pas visiter la cathédrale du coin parce qu'il y a autre chose à voir, peut-être même faire des magasins. » Et j'ai dit, « Non, non, on va visiter la cathédrale parce qu'ici, à Clermont, il y a joli, il faut tout voir. » Mais ce qui m'a attristé souvent dans nos moments de vacances en regardant les églises ici et là, en France et ailleurs, c'est que souvent les bâtiments sont fantastiques. Vous savez, vous rentrez dans une cathédrale style gothique, et qu'est-ce que vous faites en rentrant? Vous faites comme ça, n'est-ce pas? L'architecture est faite d'une façon pour établir tout de suite entre ceux qui rentrent cette idée que Dieu, il est là et nous sommes ici. Ça peut être un moment spirituel de visiter une église. Mais ce qui m'a malheureusement souvent attristé en rentrant dans ces églises, c'est que c'était froid. C'était froid, c'était sans vie. Ça manquait des gens, bien sûr. Sauf pour les touristes, mais ça manquait l'esprit. Le grand prédicateur John Stott a dit concernant ce verset 31 que des croyants, ce moment-là, ce jour-là, étaient secoués par le Saint-Esprit pour devenir des chrétiens inébranlables. Dieu a secoué l'Église pour que les membres deviennent des croyants qui ne flanchaient jamais. Car quand une Église, tenez-vous bien, quand une Église commence à prier fidèlement et à chercher la face de Dieu, comme nous avons fait tout à l'heure dans notre moment de louange, quand une Église fait ça, tôt ou tard, le Saint-Esprit va venir et va nous secouer. Imaginez un moment que le Saint-Esprit arrive ce matin ici et que les murs commencent à trembler. Vous allez dire, « Oh mon Dieu, sauve-moi !» On est déjà sauvé. On va dire, « Seigneur, merci, parce qu'on a besoin d'une deuxième visitation de son esprit, n'est-ce pas? Comme communauté. Surtout après ce que cette Église a vécu il y a un peu plus d'un an. Ça serait bien que le Saint-Esprit revienne encore dans le cœur de chaque membre ici et de chaque fidèle dans cette communauté pour nous rafraîchir, pour nous redonner du courage et de l'énergie pour la tâche qui est la nôtre. Est-ce que vous connaissez ce vieux cantique? Merci de venir, docile, il va m'aider. Parce qu'avec ma voix, vous n'allez pas aimer, hein? Mais je vais essayer de le chanter, ce vieux cantique qui dit ceci. Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Sors de moi, courbe-moi, brise-moi, façonne-moi. Viens, l'Esprit du Dieu vivant, viens et règne en moi. Chérie, je promets que je ne chante plus dans la prédication. Quel beau chant, n'est-ce pas? Que l'Esprit de Dieu vient pour nous sonder, pour nous purifier, et ensuite pour nous donner de l'énergie pour être des chrétiens. Et l'Église, donc, il attend de nous. Mais ce n'est pas tout. Selon Actes, chapitre 1, verset 8, Jésus a promis à ses disciples que quelque chose allait arriver. C'était quoi? Dites-le-moi. C'était quoi? L'Esprit. Que l'Esprit allait venir. Et ça s'est fait. On l'a lu plus tard dans le livre des Actes. Le Saint-Esprit est venu. Mais le Saint-Esprit est venu pourquoi? Pour nous épater? Non. Pour faire quoi? Pour nous transformer et pour que nous puissions être ses témoins. Ici où nous sommes, ailleurs dans la ville et dans la région et dans notre pays, jusqu'aux quatre coins du monde, nous sommes récipients du Saint-Esprit pour être de ceux qui partagent cet esprit avec le monde. Comment est-ce possible? Jésus a dit, vous savez, il y a des passages dans la Bible qui sont difficiles à croire. Vous êtes d'accord avec moi? Et dans Jean 14, 12, Jésus dit, vous êtes mes disciples, vous allez faire les mêmes choses que moi et encore plus grandes. Quand même, Jésus, hein? Ça fait un moment que je n'ai pas guéri quelqu'un, que je n'ai pas redonné la possibilité de marcher à quelqu'un qui, depuis sa naissance, ne pouvait pas marcher. Et comment tu me dis que je vais faire les mêmes choses et encore plus grandes? Est-ce possible? Ah ben oui. Pas parce que nous sommes capables, mais parce que l'Esprit de Dieu est capable. Le verset 31 continue en disant, « Et ils ont annoncé la parole de Dieu, comment? Timidement? De temps en temps? » Non, ils ont annoncé la parole de Dieu avec assurance, avec courage. Je dois vous dire que ce n'est pas facile. Hein? Je vous ai confessé il y a quelques dimanches que j'avais une occasion de témoigner et je ne l'ai pas saisi. Et en rentrant, j'ai confessé ça d'abord à Cathy et ensuite j'ai confessé ça au Seigneur. J'aurais dû le faire dans le sens inverse, mais enfin bref. Mais ce n'est pas facile de témoigner. Ce n'est pas facile. Mais quand nous sommes animés du Saint-Esprit, c'est très facile. Parce que notre joie d'appartenir au Seigneur, mais ça déborde, n'est-ce pas? Ça déborde. Et les gens nous disent, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez un grand sourire, vous passez par les moments difficiles. Et pourtant, vous êtes souriant, vous avez la confiance. Comment ça se fait? C'est parce que j'ai l'assurance que Dieu est en moi, que Jésus il est en moi et que je puisse vivre en lui. Il est facile de témoigner quand c'est l'Esprit Saint qui nous donne le courage de le faire. Dans le verset suivant, le 32, j'espère que vous avez gardé votre Bible ouverte, nous voyons une quatrième dimension de cette grande Église de Jérusalem qui peut être la nôtre aussi. Et c'est quoi? C'est cette idée de l'unité. Pour être unis par l'Esprit de Dieu, ça nous aide à accomplir son œuvre. L'apôtre Paul a dit dans Éphésiens 4, 3 ceci, « Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. » Car là où se trouve le Saint-Esprit, se trouve aussi l'unité. Ah! Verset 32 dit, le groupe des croyants était parfaitement uni. Uni du cœur et de l'esprit. Comment est-ce que nous pouvons être parfaitement unis? Regardons-nous, Seigneur, nous venons des quatre coins du monde. Il y a des Européens, des Africains, des Américains. Il y a des gens de partout dans cette Église. Comment est-ce que nous pouvons être parfaitement unis? Eh bien, les premiers chrétiens l'étaient. Non seulement les premiers chrétiens qui venaient aussi des quatre coins du monde. Non seulement, ce n'était pas une question de tolérance, mais d'amour. Ils étaient unis dans l'amour. Et ça fait l'écho de ce que Jésus a dit dans l'évangile de Jean. Si vous aimez les uns les autres, vous serez quoi? Vraiment mes disciples. On va être connus par notre amour comme vraiment disciples de Christ. Un jour, j'étais dans une semaine de partage entre églises. J'étais invité à prêcher dans l'église catholique du coin et j'ai invité le prêtre à venir dans notre église baptiste. Ça n'a pas été facile. Mais dans l'église catholique, ma prédication était la suivante. Que nous les croyants, nous les chrétiens, nous devons dire des autres chrétiens qui sont vraiment disciples de Christ, même si nous ne sommes pas exactement pareils. J'ai dit finalement qu'il n'y a pas de chrétien, mais. Oui, il est chrétien, mais il n'est pas comme nous. Il est chrétien, mais il va là-bas où on fait ceci ou cela. Et donc, j'ai insisté. Et pendant l'année qui a suivi, chaque fois que j'ai croisé les chrétiens catholiques dans la ville, ils sont venus me voir en me disant, « Ah, pasteur, je me rappelle, il n'y a pas de chrétiens, mais nous sommes tous des chrétiens, des frères et sœurs en Christ. » J'ai dit, « Ben voilà. » C'est ça, cette unité que Dieu veut nous donner en Christ. Non seulement de tolérer les uns les autres, mais vraiment de les aimer. Donc, mes frères et sœurs, plus de jalousie dans l'Église, plus de querelles entre frères et sœurs, pas de malentendus, un tel ne m'a pas dit bonjour aujourd'hui, pasteur. Qu'est-ce qu'il a? Ou bien, est-ce que vous avez vu ce qu'il portait ce matin? Non. Ça n'a pas de place dans notre Église. Ça n'a pas de place dans l'Église de Jésus-Christ. Une Église unie dans l'amour est une Église qui vit l'amour. Je vais vous donner un exemple. La dernière Église où j'étais pasteur en France est en Bretagne. Et il y avait un frère dans cette Église qui s'appelle Michel. Et chaque dimanche matin, Michel était à ma droite, au fond, avec sa famille, avec son fils adulte. Et sa femme venait quand elle pouvait, selon son travail. Mais il était fidèle, il était là tout le temps. C'était un très bon frère. Et il y avait aussi un autre frère qui était toujours à ma gauche, chaque dimanche matin, avec sa famille. Je ne vous dis pas son nom. Et ces deux frères, fidèles comme ils étaient, ne se parlaient pas. Parce qu'auparavant, ils étaient en affaires ensemble et il a eu des malentendus et ils se sont séparés et ils ne se parlaient plus. Ils ne se disaient pas bonjour, ils ne faisaient surtout pas la bise le dimanche matin. Non, pas du tout. Et ils faisaient comme si l'autre n'existait pas. Mais ils étaient très fidèles dans l'Église. Ils louaient le Seigneur. Et un dimanche matin, pendant le moment de louange, Michel s'est levé et je me suis dit, ah, qu'est-ce qu'il a? Il a besoin d'aller au petit coin, peut-être? Non. Il s'est avancé et il s'est mis à côté de l'autre frère Et à haute voix, il a demandé pardon à ce frère en disant, j'avais tort, cette situation entre nous deux ne peut plus exister. Il a embrassé. L'autre frère a commencé à pleurer aussi. Et mes chers frères et sœurs, il était comme si un énorme poids a été enlevé de notre communauté et est parti. Un poids que moi, après coup, je me suis dit, ah oui, il y avait cette chose-là, mais je ne me suis pas vraiment rendu compte que ça empêchait notre communauté à pleinement vivre cette amitié et cette unité dans l'amour que nous devons avoir. C'est ça, vivre dans l'unité du Christ, dans notre Église. À ma connaissance, il n'y a pas de situation comme ça parmi nous. Peut-être il y en a. Mais s'il y en a, s'il y a quelqu'un dans la communauté dont vous avez vraiment du mal à voir, à accueillir, à faire la bise, à prier pour, eh bien, je vous invite de régler ça. Et très vite. Parce que ça nous empêche d'être l'Église dont Dieu attend de nous. Vous êtes d'accord avec moi? Et si vous le faites, il est comme un énorme poids va être enlevé de vos épaules et de votre cœur. Nous sommes appelés à refléter la grande puissance de l'Évangile d'amour de Jésus-Christ, une puissance capable de faire de nous un ensemble de personnes si disparates finalement, venant des quatre coins du monde, de faire de nous une vraie famille. Dans Acte 2, l'Église a été visitée par le Saint-Esprit pour témoigner. Et ensuite, dans ce chapitre 4, une deuxième visitation du Saint-Esprit est arrivée pour donner cet amour dont l'Église avait vraiment besoin de vivre les uns avec les autres. Parce que comment est-ce que nous pouvons témoigner de l'amour de Jésus-Christ aux autres si nous n'avons pas cet amour ici dans notre communauté? Expliquez-moi ça. Ce n'est pas possible. Donc, je vais vous dire une chose. Hein. Je vous aime tous. Je ne vous connais pas tous profondément. Certains plus que d'autres. Mais le peu ou le plus que je vous connais, je vous aime. Je vous aime réellement. Parce que Dieu me donne de l'amour pour vous. Et j'espère qu'il vous donne de l'amour pour moi aussi. Verset 33 dit ceci, « Et c'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage à la résurrection de Jésus, du Seigneur Jésus et de Dieu, et Dieu leur accordait d'abondantes bénédictions. » Ouh, soulignez ça. Si nous vivons dans l'amour, si nous témoignons, si nous laissons le Saint-Esprit venir nous animer, eh bien, qu'est-ce qui va nous arriver? D'abondantes bénédictions. Moi, je veux d'abondantes bénédictions, pas vous? Ah ben oui! Oh là là! Je vais vous dire un petit secret. Vous êtes prêts? Nous avons trouvé l'Église idéale. C'est ici. Dieu nous aime. Dieu veut nous animer. Dieu veut nous donner d'abondantes bénédictions. Mais c'est à nous de continuer à faire de notre Église l'Église idéale dont Dieu attend. Prions. Notre Dieu et notre Père, merci que tu fais de nous une Église idéale